Chapitre 6. Ils sont passés ces jours de fête. Ils sont passés ces jours de fête. Telle est la plainte de Sophie Arnoux, vieille et pauvre. À chaque instant, elle revient sur cette idée. C'était le bon temps autrefois. Et encore, qui me rendra ce temps prospère où mes jours étaient beaux? Pauvre idole brisée, que de regrets et d'amertume, et que ces grandes pitiés de la voir en ces dernières années, luttant contre la misère et l'oubli. Avec la révolution qu'elle appelait de tous ses voeux, la ruine venait pour Sophie. Ses affaires s'embrouillaient comme celles de la royauté. Le vide se faisait autour d'elle. De ses amis, les uns avaient été dispersés par la tempête révolutionnaire, les autres l'oubliaient. Bélanger lui-même l'avait abandonnée. Il avait épousé une vieille impure qui, jadis, avait lutté d'insolence et de luxe avec Sophie, avec la guerre, avec Guimard, mais qui avait eu le bon esprit et la prévoyance de placer sur bonne hypothèque quelques-uns des amants qu'elle ruinait. Bélanger avait épousé Mademoiselle d'Hervieux. Sophie restait donc seule, et cependant, il lui fallait liquider ce beau passé. Elle prit un grand parti. Elle vendit à un entrepreneur de fête nationale sa belle villa de Port-à-l'Anglais et ne songea plus qu'à trouver un asile, loin de Paris et loin du bruit. C'est à Luzarches, dans le département de Seine-et-Oise, qu'elle se réfugia. Elle acheta les bâtiments et le parc de l'ancien prieuré et, tant bien que mal, plutôt mal que bien, elle s'y installa avec les débris de son opulence d'autrefois. Sur la porte de la vieille maison, elle écrivit Ite missa est. Est-ce une épigramme et pour qui? Dans sa pensée, ne traduisait-elle pas ainsi « je n'aimerai plus » Cette impiété ne rassura pas complètement les patriotes de Luzarches. Cette vieille femme à la démarche noble, aux vêtements élégants, les inquiéta. Ils crurent flairer une scie de vent. Aussi, un jour, en pleine terreur, les membres du comité de salut public de Luzarches envahirent la maison de Sophie. Elle les reçut le sourire aux lèvres. « Je suis une bonne patriote, leur dit-elle. Je sais par cœur les droits de l'homme. J'ai chanté 20 ans à l'Opéra national pour le plaisir du peuple souverain. » Cette réponse n'aurait probablement pas satisfait les membres du comité et ils auraient poussé plus loin leurs investigations sans un buste de Gluck devant lequel ils s'arrêtèrent. « C'est Marat, le père du peuple, leur dit Sophie d'un air de vénération. » Les dignes sans culottes se découvrirent devant ce père du peuple improvisé, et comme le marbre ne rougit ni ne sourcilla, ils se retirèrent, convaincus qu'ils venaient de contempler la face auguste de Marat. Cependant, il fallut que quelques personnes de la commune répondissent de Sophie. « On a dit tant de bien de moi, écrit-elle, qu'ils ont respecté ma personne et ne se sont jetés que sur la fortune, mais à quoi sert le bien à qui n'a besoin de rien ?» Elle vécut à Luzarches plusieurs années, tout à fait en paysanne. Sophie Arnoux, fermière, élevant des poules, oh destinée! Elle sortait en sabot le matin pour aller visiter son verger, elle plantait ses choux et cueillait ses pois. « Le bruit du monde n'arrive plus jusqu'à moi, dit-elle. Si elle avait encore des nouvelles de Paris, c'était par sa fille Alexandrine. » Cette acariâtre épouse de Murville avait été des premières à profiter de la loi du divorce pour recouvrer sa liberté. Elle faisait à Luzarches de fréquentes apparitions. Elle finit par s'y marier avec le fils du maître de poste, un gros garçon qui ne lui convenait pas du tout. Pour occuper sa solitude à Luzarches, Sophie avait encore les lettres de Bélanger. Elle avait revu ce vieil ami dans un voyage à Paris et, malgré ses froideurs, elle lui écrivait des lettres charmantes. Elles sont nécessaires, ces lettres, pour montrer combien est changée la Sophie Arnoux de Lauragais. Le malheur ne l'a pas aigrie, mais il lui a donné une sensibilité, une émotion attendrie qu'on était loin de lui soupçonner. On sent qu'à ce cœur vide et désenchanté, un peu d'affection et de confiance sont nécessaires. N'est-il pas touchant et presque incroyable de trouver cette phrase sous la plume de Sophie ? Je suis comme ces bons chiens qui reviennent sur le coup et qui lèchent la main du maître qui les a frappés. C'est à Bélanger qu'elle écrit ainsi. elle lui a pardonné son ingratitude et son abandon, elle lui pardonne de la tenir éloignée de son ménage. Elle comprend que, sans doute, elle ne s'entendrait pas avec Mademoiselle Dervieux, devenue Madame Bélanger. Tandis qu'elle habite l'Usarche, c'est à Bélanger que Sophie s'adresse lorsqu'elle a besoin d'un service. Elle le charge de trouver un acheteur pour sa maison de Clichy-la-Garenne qu'elle a vendue à Réméré, presque pour rien, parce qu'elle avait besoin d'argent. Elle le prie de l'aider à contracter un emprunt. Une autre fois, elle lui demande des graines et des plants d'arbres pour son jardin. Enfin, il est le confident de ses espérances et de ses chagrins. Et certes, elle a des chagrins. Malgré le ton d'insouciance et de gaieté qu'elle affecte, en dépit de ce qu'elle appelle sa philosophie, et qui n'est que la résignation consternée de l'impuissance, elle s'ennuie et elle est malheureuse. Cet isolement, après tant d'hommages, ce silence morne après tant de bruit, lui pèse sur le cœur comme la pierre d'une tombe. Et, pour comble, ses petites ressources s'épuisent. Après le superflu, c'est le nécessaire qui va manquer. « On m'a pillé, on m'a volé !» écrit-elle. « Je n'ai pas même de quoi faire mettre des volets à mes fenêtres. » Et pendant que la misère l'assiège, voici la maladie qui vient. Elle est au lit, elle est malade, elle est mourante. Mais elle se remet, en dépit de son médecin, sorte de sganarelle, qui, du matin au soir, chante « Bouteille mamie ». À peine remise, dans le plus profond dénuement, à quoi se résoudra Sophie ? « Allons, je vais me faire solliciteuse, » dit-elle. Et de porte en porte, elle va frapper chez ses amis d'autrefois, mais elle est fière et ils sont pauvres. Hélas, ils sont ruinés aussi, la Révolution leur a tout pris. Heureux ceux qui ont sauvé leur tête. Bélanger a été mis en prison et à peine il lui reste quelques bribes de la fortune de sa femme. Et cependant, c'est lui qui envoie à Sophie un double louis, dans un temps où un louis vaut 1500 livres de rentes en assignat. Aussi, avec quel attendrissement Sophie remercie cet ami. « Je garderai toute ma vie ce double louis comme un souvenir. » Oh, pudeur de la misère ! Ce double louis lui servit peut-être à acheter du pain, car elle faillit manquer de pain. Oh, folle ! Oh, prodigue ! Que ne jetait-elle son anneau à la Seine, au temps de ses prospérités ? Elle aurait peut-être désarmé la destinée. Mais non. Et elle s'écrie « Ah, si j'avais su !» Et elle se frappe la poitrine. « C'est ma faute, ma très grande faute !» Et elle écrit « Si je n'avais pas joui de tant de richesses, autrefois, de tant de considération, je ne serais pas aujourd'hui si malheureuse et si pauvre. Mais vieillir ainsi dans le besoin et dans la misère, c'est bien mal achever sa vie. » Si je pouvais chanter encore, je chanterais comme Lise, dans je ne sais plus quel opéra de la comédie italienne. Ça ne devait pas finir par là, puisque ça commençait comme ça. Quelle douleur, en effet, après tant de joie, quel dénuement! Elle était sur le point de manquer de tout, lorsqu'elle eut l'idée de s'adresser à François de Neuchâteau, le seul de ses amis d'autrefois qui eût gagné quelque chose à la Révolution. Ce petit écrivassier, devenu un personnage, aurait bien voulu ne point se souvenir de Sophie, qui avait aidé à le décrasser quand il arriva de son village. Mais elle le regarda ferme, dans les yeux, et la mémoire lui revint. Il promit une pension de 2400 livres et un logement à l'hôtel d'Angivilliers. Vers la même époque, Sophie reprit sa correspondance avec Lauragais, qui était devenu fermier à Manican, après en avoir été réduit, dit-on, pour vivre, à se faire cocher de place. Quel bonheur pour ces vieux amants de se retrouver! Lauragais, c'est toujours Dorval pour Sophie. Entre l'hôtel de Ponthieu et l'hôtel d'Angivilliers, elle oublie qu'un monde a passé, qu'une société s'est engloutie, qu'une révolution s'est faite. C'est à Dorval seul qu'elle écrit. C'est près de lui qu'elle voudrait mourir. Ne peuvent-ils donc finir leurs jours ensemble? Ils prendraient pour modèle Philémon et Baucis. Ils sont pauvres, mais en unissant leurs ressources, peut-être arriveraient-ils à une supportable médiocrité. Et ils parlent économie, ces grands prodigues. Ils ont gaspillé leur fortune et leur jeunesse, et les voilà qui ramassent les miettes. Sophie propose à l'ouragée de venir demeurer près d'elle. Elle lui prépare une petite chambre dans son appartement. Elle n'a pour tout domestique qu'une vieille femme malentendante, mais le comte n'aura pas à regretter ses antichambres pleines de valets. « Ne soyez pas inquiet pour vous, mon ami, lui écrit-elle, c'est moi qui vous servirai et je dirai toujours « Ah, qu'on est heureux de déchausser ce qu'on aime !» Le beau rêve, il ne se réalisa pas. Sophie n'en avait pas fini avec l'expiation. Elle avait une pension, mais elle n'en recevait pas un denier, les coffres de l'État étaient vides. De nouveau, la misère frappait à sa porte et elle n'était plus seule dans sa maison. Sa fille Alexandrine était morte, laissant à sa charge 3 enfants. C'est pour eux qu'elle s'inquiète, la pauvre femme. Une fois encore, elle prend son cœur à 2 mains et elle implore le ministre de l'Intérieur, Lucien Bonaparte. Elle le supplie de lui faire continuer la pension qu'elle doit à Neuchâteau. Elle lui demande la faveur d'une représentation à son bénéfice. Pour comprendre tout ce qu'a souffert Sophie, il faut lire cette lettre qu'elle adressait à Lucien Bonaparte. Cette page magnifique et déchirante est, comme sa confession générale, le tableau de ses douleurs et de ses regrets. Après l'avoir lue, il n'est personne qui ne se sente ému, personne qui dise que Madeleine n'a pas été assez punie. Au ministre de l'Intérieur, Lucien Bonaparte. Citoyen ministre, je me nomme Sophie Arnoux, peut-être très ignorée de vous, mais autrefois très connue au Théâtre des Dieux. Je chantais, ne vous déplaise. Je ne voudrais pas cependant, citoyen ministre, vous ennuyer d'un long préambule pour vous tracer ici mes 26 infortunes. J'avais déjà pris la liberté d'adresser ma plainte à notre premier consul, mais je viens d'être averti par un journal qu'il n'en devait connaître que par vous, son ministre. « Eh, me suis-je dit, sois contente, Sophie. Va, c'est un cœur de famille, compte-lui ta chance, et la voici, tout comme je l'ai dit à votre aînée. » Dès mes plus jeunes ans, et sans y être destinée autrement que par le hasard qui gouverne tant de choses, 20 années de ma vie ont été consacrées au Théâtre des Arts, où quelques dispositions naturelles, une éducation soignée, de l'instruction, le tout cultivé, appuyé des conseils de gens de goût, savants, artistes, enfin de gens justement célèbres. Quant à moi, j'avais alors pour recommandation un physique heureux, une grande jeunesse, de la vivacité, de l'âme, mauvaise tête et bon cœur. Voici sous quels auspices j'ai été assez heureuse pour illustrer ma vie et obtenir, avec une sorte de célébrité, gloire, fortune et beaucoup d'amis. Hélas, aujourd'hui, la chance est bien tournée. Quant à la célébrité, mon nom est encore cité avec un peu d'éloge, avec ceux de Psyché, Télaïre, Iphigénie, Églé, Pomone, en un mot, au Théâtre des Arts. Quant aux amis, je puis dire que je les avais si bien mérités que je n'ai perdu que ceux que la mort m'a enlevés et ceux dont la hache descend virale m'a privé. Il n'y a donc que cette inconstante fortune qui, sans rime ni raison, m'a fait faux bond, et dans quelles circonstances? Lorsque je suis devenue trop vieille pour l'amour et trop jeune pour la mort. Voyez donc, citoyen ministre, combien il est cruel, après tant de bonheur, de se trouver réduite à un état si misérable, et, après avoir allumé tant de feux, de n'avoir pas aujourd'hui de quoi brûler un fagot dans ma cheminée, car le fait est que depuis que la nation m'a couché sur son grand livre, je n'ai plus ni où coucher, ni de quoi vivre. Je ne demande pas la richesse, assurément, mais le nécessaire pour achever encore ma vie et éviter une vieillesse malheureuse. J'ai de grosses charges, parce que, dans les temps fortunés de ma vie, j'étais le soutien des infortunés de ma famille. Cela devait être. Mais ma pauvreté ne leur rend pas la richesse. Enfin, citoyen ministre, je vous demande de venir à mon secours et de me procurer ce que mon ami, François de Neuchâteau, devenu ministre, m'a procuré. Je dois cet hommage à son cœur. Dans l'état des secours qu'il donnait aux autres artistes, j'étais comprise pour une somme de 200 francs par mois. Daignez me la continuer. J'aurais bien encore une autre grâce à vous demander et dont la faveur a pour exemple ceux de mes camarades vétérans auxquelles elle a été accordée. C'est une représentation à mon profit au Théâtre des Arts. Mais s'il est vrai, comme on dit, qu'il faut que je me charge du rôle principal, que je me déguise en Télaïre, en Iphigénie, etc., etc., etc. Oh, cela est impossible, ce serait me rendre aussi ridicule que Madame Turcaret. En Vénus, ma chère, en Vénus. Enfin, citoyen ministre, j'attends de vous tout ce que j'ai droit d'en obtenir, tout ce que le malheur attend d'une âme bonne et sensible comme la vôtre. Vous êtes bien jeune pour me connaître, mais beaucoup de vos amis, de savants, de gens de lettres, d'artistes qui vous entourent, composez ma société. Ils vous diront ce que c'est que Sophie. Lucien fut ému, la pension fut continuée. Mais que de peines, de démarches encore. De l'ordonnancement au paiement, il y avait si loin. « Suis-je assez humilié ? » dit-elle. « Il lui faut faire antichambre, courir les ministères. Et que de lettres pour hâter la venue de ce subside. Lettres à Sellerier, à Chaptal, à tous ceux de ses amis qui ont quelque relation, quelque influence. Avoir vu Paris à ses pieds et dépendre du caprice d'un petit commis. » Enfin, elle commença à être payée régulièrement cette pension si chèrement obtenue. Puis, en échange de la représentation à bénéfice que demandait Sophie, elle reçut une gratification de 2000 écus. C'était le terme de ses épreuves. Délivrée de l'angoisse du lendemain, Sophie Arnoux pouvait vivre tranquille désormais, sinon heureuse. Mais la misère, les regrets, le chagrin avaient fait leur œuvre. Elle était brisée, elle se mourait. Ses dernières lettres sont une longue plainte, elle souffre et elle s'ennuie. « Ma santé est toute dolorie, » écrit-elle à Bélanger. « Et encore ?»« Je passe mes journées aux Tuileries à regarder les passants et à m'ennuyer de mon oisiveté. C'est une vilaine vie. Qu'y faire ? Souffrir et puis mourir ? La belle chute !» Si elle retrouve quelques éclairs de sa franche gaieté d'autrefois, c'est lorsqu'elle parle de son fils, Constant Brancasse, son brave hussard, comme elle l'appelle. Elle traîna quelques mois encore, de plus en plus languissante et désolée, et enfin, le 30 Vendémiaire an 11, 22 octobre 1802, elle mourut sans bruit, sans que personne ne songeât à élever la voix, pour dire que la comédienne adorée du XVIIIe siècle n'était plus. On prétend que ses dernières paroles à son confesseur, le curé de Saint-Germain-l'Auxerrois, ont été celles-ci. « Je suis comme Madeleine, beaucoup de péchés me seront remis parce que j'ai beaucoup aimé. »